Direct en jeu, la radio insolite. Ah, pour une fois, j'allais dire, j'ai pas besoin de me déplacer puisque nous allons parler de Villeurbanne, mais on va aussi parler de Firminy, mais on va aussi parler de la chapelle de Ronchamp, mais on va aussi parler de... Non, en fait, on va parler de quelqu'un d'un peu connu. Enfin, je sais pas si je dis son nom, mais ça va peut-être pas dire quelque chose à quelqu'un. Charles-Édouard Jeanneret. Vous le connaissez sans le connaître. Et là, j'ai de la chance, bah, imaginez, je suis avec Louise d'Autreligne et je suis avec Jean-Luc Paliès. Bonjour Louise, bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Alors, je vous pose une colle pour commencer. Charles-Édouard Jeanneret, c'est qui ce mec-là?
Alors, ça, c'est son vrai nom, son nom de naissance, mais il est connu sous le nom de Le Corbusier. C'est un pseudonyme qui s'est choisi en cherchant du côté des origines de sa mère, d'ailleurs, qui sont un peu Midi-Pyrénées, d'ailleurs. Voilà. Enfin, il a transformé un nom de la famille de sa mère, mais c'est lui qui a inventé ce nom, Le Corbusier.
Le Corbusier.
Voilà. Et est devenu un des architectes. Je dirais même encore maintenant, quand on demande aux gens qui sont absolument pas connus, qui connaissent pas l'architecture, un nom d'architecte, c'est souvent Le Corbusier qui sort. Encore maintenant.
Et je rappelle aux auditeurs qu'à Villeurbanne, c'est lui qui nous a construit une partie des gratte-ciels, notre centre-ville, et qu'il a fait pas mal d'autres trucs assez conséquents. Là, ouais. C'est très original parce que vous avez une pièce de théâtre. Alors, d'après les infos que j'ai, alors excuse-moi Jean-Luc, je vais accuser Louise, ok. D'après les infos que j'ai, ça date de 2013, la première écriture. C'est bien ça, Louise?
Alors, c'est une écriture en étape parce qu'en fait, voilà, j'ai rencontré, la rencontre a eu lieu en 2013, j'ai eu la chance de rencontrer par hasard un monsieur assez âgé à l'époque, il avait 75 ans, qui est architecte et qui était un élève de Le Corbusier. Et ce monsieur a commencé à me raconter sa vie. Ce monsieur s'appelle Robert Rebutateau. Et j'ai découvert tout son parcours et surtout qu'il était finalement non seulement un élève de Le Corbusier, mais qu'il a connu Le Corbusier enfant et que c'est grâce à Le Corbusier qu'il a un peu tiré de la misère. Cet enfant était fils d'un plombier niçois de la Côte d'Azur. Mmh. Et c'est grâce à Le Corbusier qu'il est sorti de la misère et qu'il est devenu architecte. Il m'a raconté toute son histoire. Et j'ai d'abord écrit un récit, roman, qui s'appelait Robertino, l'apprenti de Le Corbusier. Et ce monsieur est décédé en 2016. Et suite à son décès, qui m'a beaucoup touchée, parce que j'avais eu beaucoup, beaucoup de conversations avec lui, j'ai écrit la pièce de théâtre où je refais un peu toute l'histoire, mais en incluant sa mort à la fin. Voilà.
D'accord. Alors, il faut savoir qu'en 1963, en plus, le fameux Robertino.
Robertino, quand il était enfant.
Oui, a intégré l'équipe des collaborateurs de l'atelier Corbusier rue de Sèvres à Paris. Donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qui t'a donné envie, quand même, de compter ce parcours? Parce que on a l'impression que ça frise l'histoire d'amour, quoi, la découverte,
C'est-à-dire que ce monsieur, il m'a raconté sa vie et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Surtout, je l'ai pris comme une leçon. C'est pour ça que j'ai mis un sous-titre ou la main tendue de Le Corbusier. C'est-à-dire une leçon. Quand dans la vie à 12 ans, parce qu'il le rencontre, il a 12 ans, vous avez la chance d'avoir quelqu'un. Parce que Le Corbusier était quelqu'un d'assez dur quand même, c'était pas un tendre, hein. Donc qui vous tend la main, mais qui vous entraîne aussi dans des choses très difficiles, et ben, je me dis, c'est une leçon pour la jeunesse, il faut pas rater les mains qui passent. Parce qu'après, quand on est vieux, on se dit, oh là là, putain, merde, pardon, on dit pas ça, on dit, oh là là, mais si j'avais su, j'aurais saisi cette main qui s'était tendue. Voilà, donc je trouvais que c'était une belle histoire de transmission. Et c'est vrai que ce monsieur m'a raconté, en plus c'était un méditerranéen,
avec verve,
avec faconde, c'était drôle la façon dont il racontait cette découverte de Le Corbusier par hasard, comme ça. Et donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Voilà.
Alors la pièce s'appelle La cabane de l'architecte, la main tendue de Le Corbusier. Et c'est pas un hasard si vous l'avez appelé la cabane de l'architecte.
Mais... Alors, la cabane de l'architecte, parce que dans l'histoire, donc qui est tout à fait véridique, Le Corbusier a construit son cabanon personnel de vacances, qui est un modèle de, on va dire, des futurs campings solides de vacances, sur le terrain des parents de Robertino qui avaient un petit terrain sur la Côte d'Azur. Vous savez, c'était son père était plombier.
Il avait une guinguette
où il venait pêcher le dimanche, etc. Il avait réussi avec ses petites économies de plombier à avoir ça. Et Le Corbusier est venu manger dans cette guinguette très sommaire. Hein. Le petit garçon Robertino servait à table et Le Corbusier s'est trouvé tellement bien là qu'il a construit son fameux cabanon, qui est maintenant reconnu par l'UNESCO, sur le terrain du monsieur, accolé à la guinguette. Et donc, c'est devenu le lieu de vacances de Le Corbusier et sa femme pendant plus de 16 années. Ils sont venus tous les étés. Et à chaque fois, le petit garçon grandissait, il écoutait Le Corbusier, Le Corbusier allait se baigner avec lui, il lui racontait.
Mais à l'origine, il y avait que Le Corbusier venait à cet endroit parce qu'il venait dans la villa d'Hélène Gray.
Oui, juste à côté, il y avait la belle villa blanche d'Aileen Gray, qui était une designer à la mode, et de Jean Badovici, qui était un architecte à la mode aussi. Et Le Corbusier venait en vacances chez Aileen Gray et Jean Badovici. Mais comme il s'est disputé un jour avec ce monsieur, il est venu à la guinguette et il s'est dit, bah tiens, je pourrais rester là. Et c'est comme ça qu'il a atterri dans la guinguette et qu'il a fini par construire son cabanon sur le terrain du père de Robertino.
Mais ensuite, il a transmis, évidemment, à Robertino, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, il a transmis l'idée de sauver ce site, le Cap Martin, et en faire quelque chose, parce qu'il sentait bien, Le Corbusier, que cet endroit était particulièrement intéressant et qu'il fallait sans doute le sauver. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Robert.
Voilà. Alors, ce qui est original, je suis impressionné. Peur que le cabanon de vacances, c'est pas un truc énorme, quoi. Il fait 3,66 m par 3,66 m.
Exactement, 3,66 m par 3,66 m, selon les mesures modulaires, selon Le Corbusier. Un homme moyen mesure 1,83 m, le bras levé, il fait 2,26 m. 3,66 m, c'est deux fois la grandeur d'un homme, donc deux fois 1,83 m. Et il pensait que le nombril de l'homme était à 1,13 m et que donc toutes ses proportions étaient suffisamment utiles pour le bien-être humain. Voilà. De fait, c'est vrai que le cabanon, la construction est assez étonnante et fonctionnaliste. Enfin, et d'ailleurs, ensuite, Robert Rebutateau va participer à certaines constructions comme les stations de sport d'hiver des Arcs, par exemple, qui vont être faites sur le modèle du cabanon, qui vont être faites sur le modèle modulaire, et qui vont reprendre toutes ces mesures. Donc, ce qu'on retrouve dans les habitats de vacances la plupart du temps, d'ailleurs, Robert Rebutateau en a construit beaucoup, ce sont les mesures modulaires de Corbusier. Voilà.
Justement, toute cette histoire, l'évolution de Robert.
Ouais, c'est ça, tout ce parcours étonnant et on a toutes les étapes de l'éducation que Le Corbusier a donné à Robertino au travers de rencontres qu'il provoque, que Le Corbusier suscite. Par exemple, il va faire se rencontrer un conducteur de travaux qui s'appelle la Griffoul, et lequel le conducteur de travaux met Robertino à la pelle, à la pioche, dans les tranchées.
C'est-à-dire que Le Corbusier lui-même n'a jamais fait d'école d'architecture, faut le savoir. C'est quelqu'un qui s'est formé un peu à l'ancienne sur le terrain, comme ça. Il a été juste graveur de montres en Suisse quand il était jeune, donc une école de dessin pour graver les goussets de montres. Mais finalement, il a été formé par ses voyages. Il est parti très jeune, à 17 ans à peine, il est parti faire le tour de l'Europe à pied. Il était formé comme ça. Et finalement, il forme un peu Robertino de la même façon, c'est-à-dire sur le terrain.
Sur la pratique,
c'est-à-dire, tu veux devenir architecte, eh ben, tu vas d'abord aller travailler avec les immigrés italiens, algériens, tout ça, tu vas aller piocher la terre, tu vas aller ramasser les pierres, tu vas aller faire ça, puis après tu vas être grutier, après tu vas... Voilà, et il l'a formé comme ça.
Et ensuite, tu vas au couvent de la Tourette, à côté de Lyon, ensuite, voilà, tu vas aller dans les différents lieux, il va participer comme ça à pas mal de chantiers. Non, c'est assez étonnant, c'est effectivement un hommage à... on va dire à l'autodidacte qu'il était lui et que Robertino était aussi. Voilà.
Parce que Robert Robitato a été le premier architecte de France à avoir le titre d'architecte par les validations d'acquis de l'expérience, qui était une nouvelle loi proposée par Malraux à l'époque. Mmh. Voilà.
Malraux qui fait l'hommage à Le Corbusier, à la mort du Louvre, avec sa voix très particulière. Voilà. Qu'on entend dans le spectacle, d'ailleurs. On rend aussi hommage à Malraux.
Ce qui est aussi assez comique dans le spectacle, c'est la rencontre inattendue entre Le Corbusier, qui était un bourgeois assez sévère, assez de droite, d'ailleurs, faut bien le dire, même parfois un peu pendant la guerre.
On ne sait pas,
c'est de droite, mais la famille Robitato était une famille d'ouvriers immigrés italiens de gauche. Donc il y a cette confrontation incroyable qui fait que Le Corbusier, à qui tout le monde parle avec grand respect, tout ça, quand il arrive sur le terrain de l'Étoile de Mer, là, la petite guinguette, le père Robitato, il ne sait pas du tout qui c'est, donc il lui parle et très franchement, en disant, ben non, il faut m'apporter l'argent tout de suite si vous voulez manger, moi j'ai pas les moyens, enfin, etc., etc. Et Le Corbusier est très surpris par ce côté naturel, parce que ces gens ne le connaissent pas, ils savent pas à qui ils ont affaire, donc ils le traitent, voilà, il n'y a pas de respect a priori, ou d'onction, ou de...
Se calcule pas.
Voilà, et donc, il y a des scènes assez comiques, en fait, sur ce rapport entre le père de Robitato, père, et Le Corbusier. Et l'enfant voit tout ça, et avec des yeux ronds, il se demande ce qui se passe de ce vieux monsieur, parce que pour lui, c'est un vieux monsieur, Le Corbusier, il a 60 ans, donc c'est un vieux monsieur, et il se demande ce qui va se passer, et finalement, il va apprendre, Le Corbusier va lui apprendre le dessin, là, devant la Méditerranée, sur la terrasse de l'Étoile de Mer, il va lui montrer les cailloux, il va lui montrer les arbres, les fleurs, les plantes, il va lui expliquer, et l'enfant, il ouvre des yeux émerveillés, et n'a de cesse de faire du dessin, de devenir architecte, quoi.
Voilà. Ce que je trouve bien dans ce type de spectacle, c'est qu'en plus, c'est très pédagogique, puisqu'on apprend plein de choses, puisqu'on compte une histoire vraie et tout. Ça devrait être joué partout. Et d'ailleurs, je crois que c'est en 2024, vous êtes parti en Espagne jouer sur le festival de théâtre en français de Barcelone.
Oui, absolument. Oui. Nous avons joué le spectacle à Barcelone, à l'Institut français de Barcelone, et surtitré en castillan, mais devant un public de Catalans, puisque c'était à Barcelone. Donc c'était assez étonnant. Non, ça a très très bien marché. Mais vous savez, à Barcelone, les gens sont très friands de la question de l'architecture. Donc c'est vrai qu'on a eu un public très ouvert, et on a eu beaucoup de jeunes aussi. C'était assez étonnant. Les gens connaissent Le Corbusier, hein, bien sûr, à Barcelone. Ils ont suffisamment d'architectes qui ont connu Le Corbusier, notamment un certain monsieur Certes, qui a eu une correspondance très, très intense avec Le Corbusier, qui a construit beaucoup de bâtiments sur Barcelone. Voilà. Non, ça s'est très bien passé.
Et là, vous retournez à nouveau dans un théâtre assez extraordinaire qui s'appelle l'Épée de Bois.
Voilà.
Je ne sais même pas comment présenter cette salle. Elle est magique.
Alors, c'est vrai qu'elle a des volumes assez étonnants. Elle est magique parce qu'elle est effectivement complètement en bois. C'est la salle dans laquelle nous jouons, parce qu'il y a une autre salle dans le théâtre de l'Épée de Bois qui s'appelle la salle en pierre, dans laquelle nous avons joué également un autre spectacle. Mais là, nous sommes dans la salle en bois, et la salle en bois a des proportions très étonnantes, très, très belles. Là, il a fallu l'aménager d'une manière un peu particulière. Nous avons remis des pendrillons noirs parce que, vous savez, au théâtre, quand on veut exprimer quelque chose avec un décor, avec un système scénographique particulier, finalement, notre page blanche au théâtre, c'est les rideaux noirs. Donc, il a fallu qu'on mette des rideaux noirs en fond pour que ressorte notre dispositif scénique, qui est très particulier, puisque c'est vraiment une construction voulue, très proportionnée. Il y a 3,66 m, il y a les 2,26 m, vraiment, on est dans quelque chose de très proportionné, mais qui est en même temps un décor symbolique, qui pourrait penser à, on pourrait penser presque à une pierre tombale, assez grande quand même, mais à des voiles de bateau, ça nous permet évidemment ça renvoie au cabanon, mais ça nous permet d'utiliser ce dispositif comme aussi un paravent autour duquel on tourne et on fait rentrer les personnages, puisqu'à quatre comédiens, nous jouons presque une panoplie d'une douzaine de personnages. Donc il fallait trouver un système qui permette cela, et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Mais donc ce théâtre de l'Épée de Bois, nous l'avons équipé de manière un peu particulière, et c'est très très joli, nous sommes contents. Hier, nous avons fait une pré-générale, et nous voyons que ça fonctionne très bien. Il a fallu trouver les bonnes lumières, les bonnes proportions, tout ça. Voilà.
Oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser que d'une date symbolique, ça commence demain, le 13 novembre, et c'est en continu du 13 au 30 novembre, avec une présence terrain qui est quand même relativement intéressante, puisque c'est le jeudi, vendredi, samedi à 21h, et le samedi et le dimanche à 16h30.
Voilà.
Donc il y a de quoi faire. Bon. Pour réserver, il suffit d'aller sur le site internet www.epedebois.com, et là, évidemment...
Ou alors billetterie aussi.
Billetterie@epedebois.com.
Oui, mais ça, c'est une adresse mail.
Oui, c'est une adresse mail.
Ah oui, c'est une adresse. Sinon, il y a, il y a le téléphone aussi, on peut réserver, c'est le 01 48 08 39 74.
Ah oui, c'est bien.
Et puis pour en finir, ce qui est bien, c'est que d'après ce que j'ai compris, le spectacle va partir en tournée.
Oui, alors on a une tournée sur 2026, là, le début de 2026, mais déjà une tournée se prépare sur 27 aussi. Alors là, c'est une première phase qui va nous mener du sud-est. On va repasser par la région parisienne en février, et on va aller jusqu'à Luxeuil-les-Bains en fin février. Après, il y a une deuxième phase qui va peut-être nous amener au couvent de la Tourette. Hein, c'est en pourparler actuellement, c'est au mois de mai. Mmh. Et au mois de juin, on a le mois de Molière à Versailles. Mmh. Cet été, il y a quelques dates qui se profilent. C'est pas encore que tout n'est pas encore scellé. Et puis, il y a une tournée qui va reprendre en saison prochaine, voilà, sur 26, 27. Mais bon, je vais pas vous détailler tout ça.
Exactement. Et puis, on pourra suivre l'actualité et tout. Ça s'appelle La cabane de l'architecte, la main tendue de Le Corbusier. Auteur Louise Doutreligne, metteur en scène, voix off et interprétation Jean-Luc Paliès. C'est au théâtre de l'Épée de Bois du 13 au 30 novembre, les jeudis, vendredis, samedi à 21h et le samedi et dimanche à 16h30. Merci à vous deux d'avoir pris ces quelques minutes pour nous faire rêver un tout petit peu et nous faire découvrir cette belle histoire. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.